Véroa Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, monsieur, bonsoir. Jacques Aristide avec vous dans Le Monde aujourd'hui, en ce mardi 14 décembre 2021. Une demi-heure d'actualité et de magazine que vous propose VOA Afrique à la une de l'actualité ce soir. La mission de formation de l'Union européenne en Centrafrique, suspendue temporairement due à la prise de contrôle par le groupe Wagner d'un bataillon de l'armée centrafricaine. Prolongement d'un an du gel du Parlement en Tunisie, les opposants du président Kais Saied y voient une nouvelle dérive autoritaire. En Libye, affrontement armé entre forces de l'ordre et un groupe affilié à Khalifa Haftar à 10 jours des élections. Nouvelle tragédie en Haïti, au moins 60 morts dans l'explosion d'un camion-citerne à Cap-Haïtien, deuxième ville du pays. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rendez-vous avec l'économie et les sports d'environ 10 minutes. La présence du groupe russe Wagner en République centrafricaine et son emprise sur le pays a conduit l'Union européenne à temporairement mettre un terme à sa mission de formation des forces armées centrafricaines. L'annonce a été faite ce matin à Bangui, compte rendu de notre correspondant Freeman Sipila.
La principale raison évoquée est le contrôle d'une partie des troupes centrafricaines par des instructeurs russes de la société privée Wagner, selon le général Jacques Langlat de Montgrosse. Commandant de l'UTM RCA, cette suspension temporaire se justifie par les raisons suivantes.
Ce sont des exactions commises par les mercenaires de Wagner qui nous posent un problème. Ces exactions sont avérées, reconnues par le comité des sanctions des Nations Unies, par la MINUSCA, par des ONG, mais également par le gouvernement centrafricain. Et donc, pour nous, par considération pour le peuple centrafricain, il n'est pas acceptable de coopérer de manière directe ou indirecte avec des mercenaires qui commettent des violations au quotidien contre ce peuple centrafricain.
L'Union européenne reste tout de même flexible, mais conditionne la reprise de cette collaboration.
Le premier, c'est l'assurance que les unités, les soldats formés, ne seront pas employés de façon directe ou indirecte par la société militaire Wagner. Le deuxième facteur, c'est l'assurance qu'une sélection robuste soit réalisée en amont du début de la formation, en coordination avec la MINUSCA. Et la troisième condition, c'est l'assurance de la soutenabilité, que les soldats formés soit soldé, donc il y a assez d'argent pour les payer, équipé, armé, et puis qu'il y ait suffisamment de cadres, officiers, sous-officiers, pour les commander en opération.
De leur côté, les autorités centrafricaines n'ont pas encore réagi à cette décision de l'Union européenne. Depuis 2016, l'UE, à travers l'EITM, a déjà formé plus de 4000 soldats centrafricains. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, deux étudiants et un chauffeur de taxi kidnappés il y a exactement une semaine par des bandits armés près de Goma ont été libérés par leurs ravisseurs. D'après leur entourage, ils ont été libérés hier soir et ont été hospitalisés. Leur santé précaire, ils ont passé 7 jours en captivité, affirme Jérôme Kaniinda, président de l'association des propriétaires de taxi-voitures au Nord Kivu. Il dit déplorer que l'armée et la police ne sont pas intervenus, sans parler des conditions de cette libération. En Tunisie, l'opposition est vent debout après la décision du président Kais Saied de prolonger d'un an la suspension du Parlement. Elle dénonce ce qu'elle considère comme une nouvelle dérive autoritaire. Le point avec Abdourahmane Dia.
Pour le parti d'inspiration islamiste Ennahda, il n'est pas question d'un retour en arrière alors qu'il dominait le Parlement qui a été suspendu le 25 juillet. La prolongation du gel jusqu'aux prochaines élections législatives du 17 décembre 2022 équivaut à une dissolution de fait. Le député d'opposition Hichem Hajbouni estime que le président Kais Saied se considère comme prophète infaillible qui veut s'emparer de tous les pouvoirs. Ceux qui ont eu l'honneur de se battre pour faire échec au coup d'État continueront sur cette voie, a pour sa part affirmé Jawhar Ben Barek, l'un des opposants les plus en vue au président Saïd. Le chef de l'État a aussi annoncé dans ce discours à la Nation lundi soir un référendum pour le 25 juillet sur des amendements de la Constitution qu'il veut plus présidentielle et de la loi électorale qui régira les législatives. Son discours est intervenu quelques jours avant des manifestations prévues par les opposants, mais aussi les partisans du président le 17 décembre, jour de célébration du 11e anniversaire de la révolte contre le régime de Zine Abidine Ben Ali, qui a donné le coup d'envoi au printemps arabe.
Des affrontements armés ont opposé la nuit dernière à Sebha, dans le sud de la Libye, les forces de l'ordre et un groupe affilié au maréchal Khalifa Haftar à 10 jours des élections. Les précisions de John Linden.
Armée des chars et de l'artillerie lourde, une milice sous le commandement de Mabrouk Saban, des forces d'Al-Kamaradou, nom de l'opération militaire lancée par le maréchal Haftar, s'est emparée de 11 véhicules tout-terrain destinés à la police sous la menace des armes, a indiqué la direction de la sécurité de Sebha dans un communiqué. Selon elle, ce groupe pro-Haftar a forcé le convoi à se diriger vers la base aérienne de Prague, plus au sud. Des photos et des vidéos diffusées par les médias locaux montraient des échanges de tirs violents en plein centre de la ville de Sebha. Aucun bilan humain ou matériel n'a été officiellement communiqué. La Libye est censée élire son président dans 10 jours, mais outre ces combats, l'absence d'une liste officielle de candidats et des désaccords persistants entre camps rivaux font peser de sérieux doutes sur la tenue du scrutin à la date prévue.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Haïti, au moins 60 personnes ont été tuées après l'explosion d'un camion-citerne. L'accident a fait de nombreux blessés, selon un bilan provisoire fourni par un responsable local. Claire Morin-Gibourg pour les détails.
L'explosion s'est produite tôt ce matin à Cap-Haïtien, la deuxième ville du pays. Le maire adjoint Patrick Almonor dit avoir constaté entre 50 et 54 personnes brûlées vives. Impossible de les identifier. Il a ajouté qu'une vingtaine d'habitations ont également pris feu à la suite de l'explosion, laissant craindre un bilan plus lourd. L'hôpital Justinien, où de nombreux blessés ont été transportés, est débordé face à l'afflux des blessés, dont nombreux sont dans un état critique. Une infirmière a fait état du manque de moyens pour prendre en charge les nombreuses personnes grièvement brûlées. Haïti subit une forte pénurie de carburant en raison de la mainmise des gangs sur une partie du circuit de ravitaillement. Des manifestations ont eu lieu lundi contre l'augmentation des prix de l'essence.
La ville de Washington a porté plainte aujourd'hui contre des groupes d'extrême droite, les Proud Boys et les Oath Keepers, et contre une trentaine de leurs responsables, accusés d'avoir planifié, promu et participé à l'assaut contre le Capitole le 6 janvier dernier. La plainte a pour objectif de décourager de futurs actes de violence et à dédommager les victimes, y compris les agents de police de la capitale américaine, a déclaré son procureur général. Carl Racine. Pour leur part, les élus américains se prononcent aujourd'hui sur l'engagement de poursuites pénales contre Mark Meadows, l'ancien chef de cabinet de Donald Trump et un de ses plus proches conseillers, qui refuse de témoigner dans l'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole. L'investigation cherche à faire la lumière sur les dernières semaines de la présidence de Donald Trump jusqu'aux événements du 6 janvier. À Jakarta aujourd'hui, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a appelé la Chine à cesser ses actes agressifs dans l'Indo-Pacifique au cours d'une visite dans la région. Nous sommes déterminés à garantir la liberté de navigation en mer de Chine méridionale, où les actes agressifs de Pékin menacent des échanges commerciaux pour un montant de plus de 3 000 milliards de dollars chaque année, a déclaré le secrétaire d'État américain dans un discours prononcé sur le campus de l'Université d'Indonésie. Lors de sa première tournée en Asie du Sud-Est, qui doit également le mener en Malaisie et en Thaïlande, il a également réaffirmé l'attachement de Washington à la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan, plus que jamais au cœur de tensions extrêmes entre les deux premières économies mondiales. Le président russe appelle à des pourparlers immédiats avec l'OTAN et les États-Unis sur les garanties à apporter à la Russie pour sa sécurité sur fond de tensions autour de l'Ukraine. C'est ce qu'indique le Kremlin aujourd'hui. Lors d'un récent entretien virtuel, Vladimir Poutine a demandé à son homologue américain Joe Biden des garanties juridiques pour exclure tout nouvel élargissement de l'OTAN. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité en Afrique et ailleurs dans le monde ce soir. Et maintenant, un résumé des nouvelles économiques. C'est la Minute Éco avec Eric Manirakiza ce soir.
Quelques 8000 Cap-Verdiens résident officiellement à Sao Tomé-Principe, un archipel qui compte environ 210 000 habitants. Beaucoup vivent dans une grande précarité sans eau potable et avec une électricité très défaillante. Dans une étude, deux chercheurs de l'Université de Santiago Cap-Vert ont affirmé que les immigrés capverdiens sont dans une situation indigne et dégradante et n'ont pas les revenus pour vivre dignement. Les plus jeunes vivent de petits métiers informels. Les coûts des catastrophes naturelles en 2021 se sont montés à quelque 250 milliards de dollars, selon une première estimation publiée mardi par le réassureur suisse RE, en hausse de 24% par rapport à 2020. Les inondations de juillet en Allemagne et en Belgique ont entraîné 40 milliards de dollars de pertes. À ces catastrophes s'ajoutent les désastres et accidents humains. Les pertes économiques sont évaluées à 9 milliards de dollars, en baisse de 38% sur un an. Toyota prévoit d'écouler 3,5 millions de véhicules électriques par an à partir de 2030 et compte lancer 30 modèles de cette catégorie. La marque haut de gamme du groupe Lexus va devenir 100% électrique d'ici 2030 en Europe, Amérique du Nord et Chine, soit 1 million d'unités par an, et dans le monde entier d'ici 2035, a annoncé mardi son PDG Akio Toyoda lors d'une conférence de presse à Tokyo. Toyota est redevenu numéro 1 mondial du secteur en 2020.
Sans plus tarder, un tour d'horizon de l'actualité sportive avec au micro Élisée Oumpatine. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Le nouveau président de la Fédération camerounaise de football, à peine arrivé, veut déjà restaurer la discipline au sein de l'instance qu'il va diriger pendant les 4 prochaines années. En effet, Samuel Eto'o, arrivé très tôt au siège de la FECAFOOT, a remarqué l'absence des employés venus en retard. Et pourtant, lors de sa première prise de contact avec eux la veille, il a insisté sur le fait que le travail commence à 8h et s'achève à 16h. Ainsi, l'ancien capitaine des Lions Indomptables a instruit la fermeture du portail à 8h. Plusieurs employés retardataires, notamment ceux du service du courrier arrivé après 8h, ont été bloqués à l'extérieur du siège de l'instance fêtière. Le dirigeant de 40 ans en a profité pour faire le tour des bureaux et recenser le personnel présent. On reste dans le pays pour dire que à moins d'un mois du coup d'envoi de la CAN, le Cameroun a dévoilé son nouveau maillot pour la compétition. Confectionné par l'équipementier français Le Coq Sportif, celui-ci est évidemment de couleur verte et présente plusieurs nouveautés. La principale est l'apparition d'une épaulette rouge et jaune, les deux autres couleurs du drapeau camerounais côté gauche. De nombreuses marques de griffures sont aussi présentes sur le torse, histoire de montrer que les Lions Indomptables sont déchaînés avant d'entamer la compétition, où ils affronteront le Burkina Faso, l'Éthiopie et le Cap-Vert dans le groupe A. On prend la direction de la Guinée à présent pour dire que Kaba Diawara est nommé nouvel entraîneur du Sili National. L'ancien joueur d'Arsenal et du Paris Saint-Germain a été nommé à un mois de la Coupe d'Afrique des Nations suite au départ du Français Didier Cisse. Le technicien français a été relevé de ses fonctions après un parcours décevant lors des qualifications pour le Mondial de 2022. Kaba Diawara, ancien capitaine de la sélection, aura donc quelques jours pour remettre les choses en ordre avant la CAN. Au Cameroun, le Sili National, logé dans le groupe B, affrontera le Sénégal, le Zimbabwe et le Malawi. Football toujours, mais chez les dames, avec le troisième tour des qualifications pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans, Costa Rica 2022. Deux tickets sont à prendre demain après celui obtenu lundi par le Maroc aux dépens de la Gambie. Après sa victoire 3-1 du match aller, le Botswana se rend en Éthiopie pendant que l'Afrique du Sud aura un but à remonter face à l'Ouganda. À noter que le Cameroun et le Nigeria sont déjà qualifiés pour le tour suivant après le retrait du Gabon et du Congo. Handball à présent avec le mondial féminin en Espagne. Renversé en Coupe du Président, l'Angola et le Cameroun cette fois se sont bien comportés. Logés dans le même groupe, les Angolaises ont eu raison de l'Ouzbékistan 52-11 pendant que le Camerounaise disposait de l'Iran 32-17.
Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Merci de votre fidélité. Jacques Aristide toujours avec vous et maintenant, nous vous proposons la tranche magazine. Le Burkina Faso a un nouveau gouvernement depuis hier soir, dans lequel plusieurs ministres ont gardé leur poste sous la houlette de Lassine Azerbo. Nommé Premier ministre vendredi dernier, il a appelé à la cohésion pour lutter contre les attaques djihadistes. 10 nouveaux ministres font leur entrée dans ce gouvernement pour 19 départs, alors que certains portefeuilles ont été fusionnés. John Lyndon a joint Paz Ien, juriste et analyste politique à Ouagadougou.
Je dirais qu'il s'agit d'un gouvernement de crise parce que ce gouvernement intervient à la suite d'une crise sociale qui a secoué le Burkina Faso. On se rappelle qu'il y a eu 57 morts dans une attaque à Inata et il y a eu, des remous sociaux un peu à gauche, à droite, ce qui a amené donc le président du Faso à décider de changer le gouvernement.
Sur la forme, le président avait parlé d'un gouvernement resserré. On a ainsi passé de 34 départements à 26. Certains ont été fusionnés. Tout cela répond à quel besoin, selon vous?
Déjà, vous savez qu'au niveau du Burkina Faso, les populations se plaignaient de ce que le train de vie de l'État n'est pas réduit. Donc, dans la forme, on peut dire que le gouvernement resserré qui passe donc de 34 ministres à 26 ministres est resserré en nombre. Donc, formellement, on peut présumer que les dépenses, les charges seront également diminuées. Le resserrement également, on l'attendait hein, d'un point de vue du fond, parce qu'il fallait qu'au sein du gouvernement, il y ait beaucoup plus de cohésion. Quand on sait que dans l'ancien gouvernement, il y avait souvent des dissensions entre certains membres du gouvernement. Donc aujourd'hui, on s'attend à ce que le gouvernement soit beaucoup plus resserré en termes de nombre, ça c'est pour diminuer les charges de l'État, mais aussi en termes de cohésion sociale, pour que ces ministres-là donc puissent satisfaire aux requêtes sociales.
Le nouveau Premier ministre Lassine Azerbo a appelé à la cohésion pour lutter contre la violence djihadiste qui frappe le Burkina Faso. Outre ce challenge sécuritaire, quelles devraient être les autres priorités du gouvernement, surtout dans le contexte sociopolitique et économique actuel?
Il faut dire déjà, ce n'est pas la première fois qu'on appelle à la cohésion sociale de Burkina Faso. Hein. Le défi sécuritaire pourra être relevé si on prend en compte surtout les défis économiques et les défis sociaux. Vous devez comprendre que les zones où l'extrémisme violent est accentué, ce sont les zones les moins développées du Burkina Faso, parce que les terroristes profitent, on va dire, de la vulnérabilité des populations pour pouvoir les recruter et les utiliser pour l'extrémisme violent. Donc la priorité pour moi dans ce gouvernement, dans la lutte contre l'extrémisme violent, sera d'abord de lutter contre la pauvreté, sera donc de lutter contre le chômage des jeunes essentiellement, sera donc d'améliorer les conditions de vie des populations de façon générale. Lorsque cela sera fait, c'est certain qu'il y aura moins de recrues au sein des terroristes et beaucoup de gens pourront être beaucoup plus engagés pour la lutte contre la corruption. Parce que tant qu'on ne mange pas, tant qu'on vit dans des conditions exécrables, il est difficile donc d'être en cohésion, de respecter les lois de la République.
Paz Ien, analyste politique à Ouagadougou au Burkina Faso.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Cameroun, des villageois de la région du Nord-Ouest affirment que les militaires, à la recherche de rebelles la semaine dernière, ont tué au moins 13 civils, dont des enfants. L'armée a nié les allégations. Ce n'est pas la première fois que l'armée camerounaise est accusée d'avoir tué des civils dans sa lutte contre les séparatistes anglophones. Le reportage de Moki Edwin Kinzeka depuis Yaoundé. Le récit est de Claire Morin-Gibourg.
Des responsables du gouvernement camerounais et des organisations non gouvernementales affirment que plusieurs dizaines de civils ont fui Bangui, une ville de la région anglophone du Nord-Ouest. Les dirigeants de l'église catholique romaine affirment que plusieurs personnes se sont échappées des villages autour de Bangui pour fuir vers des localités plus sûres comme Bamenda, capitale de la région anglophone du Nord-Ouest, ou Bafoussam, une ville francophone de l'Ouest, et vers la capitale Yaoundé. Peter Shefford, 42 ans, s'est enfui samedi à Yaoundé après l'incendie de sa maison. Il accuse les troupes camerounaises qui combattent les séparatistes à Mbengui.
Quand j'ai regardé par la fenêtre de ma maison, j'ai vu des militaires dehors malmener mon fils. À ce moment-là, un militaire avait son pied sur la tête de mon fils. Alors j'ai crié que c'était mon fils, qu'il ne devrait pas le tuer. Il n'est pas un combattant séparatiste.
Chefor, sa femme et ses deux enfants vivent maintenant avec son jeune frère à Yaoundé. Les responsables gouvernementaux affirment que les civils échappent au combat entre les séparatistes et les troupes gouvernementales. Les responsables de l'église catholique romaine, Mbengui, disent qu'au moins 13 civils, dont des enfants, ont été tués et environ 20 maisons incendiées à Mbengui au cours de la semaine dernière. Les habitants de Mbengui et des groupes de défense des droits disent que plusieurs jeunes ont été arrêtés et qu'on ne sait pas où ils se trouvent. Les groupes de défense des droits humains ont vivement critiqué les arrestations, meurtres de civils, notamment d'enfants et de femmes, l'incendie de maisons, la destruction de biens et le pillage. L'armée camerounaise a nié que ses troupes ont commis des atrocités à Mbengui. Eyong Tar est un fonctionnaire du Centre pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique. Il dit que le gouvernement camerounais devrait enquêter et punir les troupes pour ce qu'il appelle des attaques de représailles contre des civils accusés de collaborer avec les séparatistes. Tar accuse l'armée de violation des droits humains dans son combat contre les séparatistes.
Après des témoignages, des preuves vidéo et des images satellites, le Centre pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique, en collaboration avec la base de données anglophone du Cameroun sur les atrocités, atteste ou confirme avec confiance que l'incendie de maison a été causé par les militaires camerounais et c'est impossible de nier ou de récuser ces accusations.
Il a déclaré qu'il est regrettable que des civils accusés de collaborer avec des combattants séparatistes soient tués ou que leur maison soit incendiée par l'armée, tandis que des personnes accusées de collaborer avec l'armée soient tuées ou leur maison incendiée par des combattants séparatistes. L'armée camerounaise et les séparatistes s'accusent mutuellement. Le porte-parole de l'armée, le capitaine Cyril Serge Atonfak Guémo, a déclaré lundi dans un communiqué que l'armée, en mission de reconnaissance, avait été touchée par un engin explosif improvisé. Il a ajouté que l'armée a déployé des troupes sur la route reliant Mbengui et Bamenda, deux villes anglophones du Nord-Ouest. Les troupes gouvernementales affirment que 4 combattants ont été tués, mais les séparatistes disent qu'il n'y a pas eu de mort dans leur rang et qu'ils ont tué au moins 7 soldats et détruit une voiture blindée à Mbengui.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Congo-Brazzaville, l'opposant Paulin Makaya, qui a été une nouvelle fois refoulé samedi dernier de l'aéroport alors qu'il tentait de quitter le pays pour des soins, est gravement malade. C'est ce que soutiennent ses proches qui affirment que Paulin Makaya parle moins. Son fils Russell Makaya lance un cri de cœur pour que son père accède à des soins de santé. De Brazzaville, le reportage de Arsène Séverin.
Il s'agit de son droit garanti par la Constitution, estiment les ONG des droits de l'homme qui suivent cette série de refoulements à l'aéroport de Mayamaya depuis 2018. Et cela fait 3 fois qu'il tente de sortir du pays, mais sans succès. Georges Nguila est le directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, OCDH.
Le gouvernement devrait aussi éviter de voir le diable partout. Parce que ce serait très contre-productif pour le gouvernement qui est déjà affaibli à cause de la crise économique. Vous savez, si un Mokoko mourait, si un Makaya Paulin mourait, ce serait des martyrs. Vous savez que les martyrs sont les terreaux fertiles des révoltes et des révolutions. Donc je crois que le gouvernement a tout intérêt pour laisser Paulin Makaya aller se faire soigner à l'étranger.
Pour avoir manifesté contre le changement de la constitution, Paulin Makaya, 55 ans, accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, trouble à l'ordre public et complicité d'évasion, va passer plus de 3 ans de prison ferme. Libéré, il a toujours voulu faire un bilan général et bénéficier des soins de santé adéquats. Son fils Russell affirme qu'il est plus que nécessaire que l'opposant aille se faire soigner.
Je vous rassure que la situation et la santé du président Paulin Makaya est très préoccupante actuellement. Vraiment, nous avons besoin d'une action urgente. Il faut vraiment qu'il sorte, il faut vraiment qu'il aille subir un traitement médical approprié, approfondi par rapport à son état de santé actuellement.
Mais qu'est-ce qu'on peut reprocher à cet opposant malade? Le politologue Constant Ebarapeya apporte une explication.
Étant donné que M. Paulin Makaya a une nationalité étrangère, il est anglais, notre gouvernant pourrait certainement soupçonner une certaine collision avec sa deuxième patrie. Étant à l'étranger, il aura certainement une capacité de nuisance qui peut causer du problème au pouvoir de Brazzaville. Mais en réalité, du point de vue interne, je ne vois pas pourquoi Paulin Makaya peut être un danger à l'ordre étatique congolais.
Contacté par la VOA, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement dit n'est pas possédé des éléments nécessaires pour communiquer sur ce sujet. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Les parines informelles, communément appelées tontines, est très répandue, notamment dans les communautés africaines et caraïbéennes. Un groupe d'amis, de famille ou de collègues se retrouve périodiquement afin de mettre en commun leur épargne en vue de répondre à un problème particulier ou collectif. Ginny Kapumbu-Villa s'est entretenue avec Marie et Stéphane Mouscardi, un couple qui participe à une tontine pour réaliser leurs rêves.
Likelemba en lingala, nat en wolof, soussou en créole, les tontines en français, vous en avez déjà peut-être entendu parler ou peut-être même que vous y participez. En tout cas, une chose est sûre, vous avez au moins une personne dans votre entourage qui y participe, que ce soit le voisin Monsieur Diallo, Gladys la commerçante ou encore Tantine Espérance ou encore Gladys la commerçante, fille de Tantine Espérance, femme de enfin bref, les tontines, je vous explique tout de suite ce que c'est. En fait, les tontines, c'est un système qui existe depuis des siècles. C'est un système économique d'épargne communautaire. Vous avez donc un groupe de personnes qui versent un montant fixe pendant une fréquence prédéterminée où un bénéficiaire recevra la somme des versements et ceci à tour de rôle jusqu'à ce que le dernier bénéficiaire ait lui-même reçu la somme des versements. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les tontines ne sont pas réservées aux pauvres. Bien au contraire, si vous êtes entrepreneur, si vous voulez augmenter vos actifs ou encore si vous avez un projet onéreux que vous souhaitez concrétiser, les tontines pourraient bien être la solution. Je vais vous présenter un couple qui tous les deux participent à une tontine et vous le verrez, ils le font pour des raisons bien distinctes.
Stéphane et Marie Mouscardi.
J'ai décidé de faire le soussou afin de réparer ma propriété. J'ai acheté un condo en Floride et il fallait beaucoup d'argent pour le travail que je souhaitais réaliser dans cette maison. Donc pour le faire, il me fallait économiser de l'argent. J'ai donc décidé de rejoindre le soussou avec une contribution d'environ $200 par semaine. J'envoie l'argent à ceux qui détiennent les fonds et quand c'est mon tour de recevoir l'argent, ils me l'envoient par Zelle ou une autre forme de paiement. C'est très pratique, surtout que j'utilise Zelle. Je n'ai pas besoin de rencontrer la personne et lui donner l'argent. Je n'ai besoin qu'à envoyer l'argent via une application. Il n'y a pas de frais associés au transfert. Et c'est génial parce qu'à la fin, je suis capable de faire ce que je vais faire avec l'argent que je reçois. C'est une excellente forme d'épargne.
En fait, qu'est-ce qui se passe? J'essaie d'économiser l'argent et puis en fait, j'arrive jamais. Et j'ai une amie qui m'a parlé justement de sous-sous et je dis bon, ok, je vais le faire. Et en fait, c'était $200 chaque chaque semaine, hein, quand j'ai touché mon argent. En fait, c'était je crois presque $12,000.
D'accord.
Et en fait, c'est comme ça que j'ai eu l'argent.
Vous l'aurez bien compris, les tontines comportent d'énormes avantages, surtout en termes d'épargne, si vous vous retrouvez à la fin du tour, ou alors d'accès rapide à un capital, si vous vous retrouvez au début du tour. Quoi qu'il arrive, c'est une option à laquelle penser si vous avez des projets à réaliser. À bientôt.
Et voilà, le monde aujourd'hui prend fin ici. Merci à toute la rédaction et à toute l'équipe de la production. L'info continue sur notre antenne et en ligne sur voaafrique.com. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide au micro. Je vous souhaite une très belle soirée. À très bientôt. Au revoir.